Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, rebonsoir, bienvenue dans le débat du jour. Depuis son accession à l'Élysée, François Hollande a choisi une politique de rééquilibrage dans le Golfe, quasi exclusivement tournée vers le Qatar sous Nicolas Sarkozy. La France de Hollande a choisi de relancer le lien avec l'Arabie Saoudite, sa famille royale, ses pétrodollars. 4 ans plus tard, la France fait la guerre aux djihadistes, dont certains estiment qu'ils ont été indirectement financés par Riyad. 4 ans plus tard, des voix dénoncent la lune de miel avec un pays au piètre bilan en matière de droits humains. On l'a encore vu avec l'arrestation il y a quelques jours de l'épouse d'un célèbre blogueur. 4 ans plus tard, les tensions sont aiguës, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Riyad et Téhéran, où la France aimerait aussi s'assurer une part du gâteau. Alors l'Arabie Saoudite est-elle l'indispensable allié de la France ? La France doit-elle revoir sa relation avec Riyad ? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio 2 invités. Nathalie Goulet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénateur de l'Orne, présidente de la commission d'enquête au Sénat sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Et puis Pierre Conessa, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, spécialiste des questions stratégiques, particulièrement militaires. Et puis vous êtes l'auteur d'un livre qui est sorti, Guide du petit djihadiste aux éditions Fayard. Pierre Conessa, je voudrais d'abord vous faire réagir à une déclaration qui a été faite ce matin chez nos confrères de BFM. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a expliqué que l'Arabie Saoudite était un partenaire obligé, que la France parlait avec d'autres pays qui pratiquaient par exemple la peine de mort. Alors à votre avis, la France doit-elle garder l'Arabie Saoudite pour allié principal dans la région ?
Oui, c'est une question que vous avez raison de formuler selon ces termes-là. Je crois qu'on est dans une redistribution géopolitique importante avec la normalisation avec l'Iran, et donc on est parfaitement en droit de se demander si la relation aussi exclusive que nous avons engagée avec l'Arabie Saoudite avec l'arrivée du président Hollande est aujourd'hui aussi importante qu'elle l'a été. Surtout qu'on est dans une situation de belligérance qui est contre l'État, le Daesh, contre l'État islamique. Or, le salafisme djihadiste est un pur produit du système wahhabite saoudien. Donc, faire la guerre à la place de l'Arabie Saoudite est peut-être aller un peu loin dans le rapport d'alliance avec ce pays.
Mais et sur ces violations des droits de l'homme, je voudrais d'abord qu'on commence par cette thématique-là. Il y en a évidemment beaucoup, hein, c'est une question complexe, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de ligne rouge à ne pas dépasser avec l'Arabie Saoudite ? Est-ce qu'on peut tout accepter pour traiter avec l'Arabie Saoudite ?
Non, on peut pas tout accepter, mais alors dans ce cas, il vaut mieux essayer de ne plus être le donneur de leçons sur la planète entière pour expliquer qu'en Russie, en Chine et partout ailleurs, on viole les droits de l'homme et oublier toujours dans la liste l'Arabie Saoudite. Donc il faudra avoir une politique un peu moins tonitruante sur ce sujet. Et puis sur le projet, de toute façon, c'est pas la peine de dire quoi que ce soit à l'Arabie Saoudite. J'ai le souvenir d'une ministre qui, en déplacement à l'Arabie Saoudite, avait essayé d'aborder la question des femmes avec le roi. L'entretien a duré 7 minutes.
Oui, alors que aujourd'hui les autorités françaises nous disent qu'elles en parlent, hein, de ces droits humains, et que c'est aussi une des contreparties de ces contrats qui sont signés. Nathalie Goulet, quelques indications. Donc 115 mises à mort en 2015, des décapitations au sabre devant les mosquées le vendredi, des amputations en guise de casier judiciaire, des coups de fouet, 47 exécutions, on en a beaucoup parlé au début du mois. Faut-il tout accepter pour traiter avec l'Arabie Saoudite ?
Alors, j'ai le grand privilège à votre micro d'être aussi la présidente du groupe d'amitié avec les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, Oman, Bahreïn. Donc vous voyez, j'ai une place un peu particulière à ce micro ce soir. Et ça ne m'empêche pas au micro du Sénat de poser des questions d'actualité quand l'Arabie Saoudite passe un appel d'offres pour 7 bourreaux parce qu'il manque de main-d'œuvre. Ça ne m'empêche pas de dire les choses. Donc déjà c'est quand même important. La deuxième chose, c'est que...
Est-ce que vous pouvez les formuler, ces questions, aussi quand vous vous rendez dans les pays du Golfe et en Arabie Saoudite?
Non, mais on en parle forcément, parce que si vous voulez un peu de crédibilité, il faut pouvoir quand même expliquer qu'il y a un certain nombre de procédures qui nous choquent. Je veux dire, c'est quand même normal que avoir un appel d'offres international pour des bourreaux au 21e siècle, c'est quand même quelque chose qui peut nous choquer. C'est quand même assez légitime qu'on soit choqué. C'est aussi assez légitime, et j'en parle aussi à l'ambassadeur, qui comprend très bien que c'est pas franchement dans notre culture.
Bon. Et alors, du coup, concrètement, quand vous allez en Arabie Saoudite, puisque Pierre connaît ça,
j'y vais dans quelques jours.
Alors, est-ce que vous allez,
en venir,
j'espère aussi
après votre
pour
émission.
Vous, est-ce que vous allez aborder ces questions-là, et auprès de qui ?
Non, mais si vous voulez, il y a deux façons de faire les choses. La première chose, c'est déjà voir ce qui se passe, parce que vous avez beaucoup de gens qui en parlent et qui n'y sont jamais allés. C'est comme les gens qui vous parlent de l'Iran, comme si les rues étaient peuplées de femmes en tchador, alors que vous avez les plus belles femmes du monde qui sont pas aussi voilées qu'on veut bien le dire, et toutes les rues de Téhéran sont pas aussi noires qu'on veut bien les voir. Donc, si vous voulez, il faut déjà connaître le pays. La deuxième chose, c'est que c'est quand même un régime qui ressemble en rien au nôtre, et qu'il faut quand même un peu regarder ce qui se passe, sans vouloir forcément dupliquer les choses. Alors, pour ce qui concerne les problèmes de droits de l'homme, on en parle forcément, parce que c'est aussi notre rôle de parlementaire de pouvoir voir sans interférer dans ce qui est la souveraineté des États. Et ce que disait Pierre Conessa est tout à fait la réalité. L'Arabie Saoudite n'est pas le seul pays à appliquer la charia, il y en a plein d'autres. C'est pas le seul pays à appliquer la peine de mort comme un certain nombre d'États américains d'ailleurs. Quand vous êtes abolitionniste partout.
Pierre Conessa, est-ce que vous pensez qu'on peut discuter avec l'Arabie Saoudite pour la faire évoluer ? C'est ce que disait Jean-Yves Le Drian ce matin chez nos confrères de BFM. Est-ce que, à votre avis, on peut avoir une action comme ça diplomatique qui fasse plier l'Arabie Saoudite ? Plier, ça évoluer.
Ça dépend sur quoi on veut la faire évoluer. Si c'est sur la question des droits de l'homme, non, c'est pas la peine. Ils se donnent une définition de qu'ils ont appelé les droits de l'homme islamiques, qui légalise le main coupée, les décapitations, etc., etc. Donc, sur la question des droits de l'homme, il est totalement inutile de discuter avec l'Arabie Saoudite, parce que je pense qu'elle n'évoluera pas. Et au contraire, elle se drape dans son principe de souveraineté. Maintenant, s'il s'agit de discuter avec elle pour un changement de politique extérieure, et en particulier de cette politique de la tension qu'elle est en train d'installer à l'encontre du Yémen, à l'encontre de l'Iran, etc., oui, là, il faut en discuter. Et encore une fois, c'est revoir notre position sur ce sujet particulier.
Moi, je crois...
Nathalie Goulet, allez-y,
oui,
je vous en prie.
Je suis assez favorable à la soft diplomatie. Parce que vous savez, les choses évoluent quand même. Et le regard...
Là, sur les droits de l'homme, on a eu encore un exemple il y a quelques jours.
C'est loin d'évoluer
dans le bon sens en Arabie Saoudite.
On vient d'en parler. Je veux dire, quand on est abolitionniste partout et on est choqué par des gens.
Je ne parle pas que de la peine de mort, parce qu'il y a aussi cette arrestation de l'épouse de Raïf Badawi.
On est absolument d'accord. Mais si vous voulez, cette partie-là de notre relation avec l'Arabie Saoudite fait partie de ce que le Quai appelle la soft diplomatie, c'est-à-dire qu'on en parle et on n'a pas de prétention de faire changer les choses dans un délai assez court. Mais il n'empêche qu'on peut quand même en parler. C'est vrai que c'est une situation qui peut nous mettre de la part. Moi, j'ai certains collègues qui veulent qu'on rompe complètement les relations diplomatiques avec les pays du Golfe. C'est une absurdité complète. Je veux dire, il faut continuer à parler. Il faut avoir des relations avec eux, il faut connaître les limites de nos engagements et savoir que de toute façon, on peut pas amener
l'extérieur. Est-ce qu'il faut vendre des armes à l'Arabie Saoudite, puisque c'est une partie des gros contrats qui sont signés en ce moment.
Je reviens une minute sur la question des appels à candidature pour les bourreaux. On est dans cette situation que j'essaye de traiter dans le guide du petit djihadiste avec une certaine distance cynique. Si un jeune aujourd'hui, parce qu'il a envie de décapiter quelqu'un, s'en va dans l'État islamique, il revient en France, il est condamné pénalement pour meurtre, assassinat. S'il va en Arabie Saoudite et qu'il est candidat et qu'il devient bourreau officiel en Arabie Saoudite, à mon avis, il n'est plus pénalisable dans son retour en France. Vous voyez le paradoxe ? Et ce paradoxe-là, il faudrait quand même que la justice française un jour se penche dessus, c'est-à-dire interdire à des citoyens français d'être candidat à ce genre de choses. Bon. Je reviens sur la question des armements.
De toute façon, je vous rassure.
Pardon ?
Je pense pas qu'il y en ait.
On ne sait pas. Sur la question des armes, l'Arabie Saoudite, c'est très simple, est notre meilleur client depuis pratiquement une trentaine d'années, sur l'ensemble de la planète, en moyenne lycée. Bon. Alors, il y a toujours un argumentaire qui ressort tout le temps à chaque fois qu'on a discussion sur l'Arabie Saoudite, c'est qu'il y a toujours en gestation 10 milliards de contrats en signature. C'est toujours 10 milliards, j'ai remarqué, c'est invariable.
Le chiffre qu'a donné Manuel Valls quand il y était en octobre, et qu'il a d'ailleurs tweeté, très, très, très content d'avoir obtenu ces signatures de contrats.
Oui, mais si vous voulez, les contrats, c'est toujours pareil, on signe un agreement, puis ensuite on commence à discuter les contrats, puis entre-temps, des fois ça disparaît dans les sables, des fois c'est réalisé, etc. Mais en gros, l'Arabie Saoudite est le plus gros acheteur d'armement aujourd'hui sur la planète. Alors j'attire l'attention sur le fait qu'il y a un pays qui est beaucoup plus discret que nous et qui vend à peu près autant la même chose que nous en Arabie Saoudite, c'est l'Allemagne.
L'Allemagne et la Turquie récemment.
Oui, mais je prends l'exemple de l'Allemagne parce que justement le débat s'est posé en Allemagne et la chancelière Merkel a décidé de geler pour le moment toutes les exportations d'armement.
Donc c'est possible, c'est pas qu'une question de réelle politique, on connaît aussi la performance économique de l'Allemagne, Nathalie Goulet.
Oui, d'accord, mais enfin de toute façon, c'est notre position à l'égard de ce pays depuis longtemps. Vous avez parlé tout à l'heure de rééquilibrage dans le Golfe. François Hollande est allé 4 fois en Arabie Saoudite en 4 ans. Il a été le premier chef d'État à être reçu au Conseil de coopération l'intégration des pays du Golfe. On a d'excellentes relations avec l'Arabie Saoudite. On vend des armes. C'est notre premier client et c'est un marché très important pour la France. Je ne vois pas qu'aujourd'hui on arrête de vendre des armes. Ou alors il faut qu'on mette
compris vendre des armes à un pays qui aujourd'hui est en guerre au Yémen, qui bombarde des civils aussi, on le sait.
Oui, mais enfin, on en vend partout, et si c'est pas nous qui les vendons, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, je veux dire, si on met la morale, la nôtre, qu'on s'applique pas forcément d'ailleurs à nous-mêmes, si on la met aujourd'hui au milieu de tous les contrats, il faut qu'on revoie la politique à l'égard d'un certain nombre d'autres pays.
Oui, ça, mais on se proclame quand même en tant que enfin la France, le gouvernement français se proclame quand même comme un défenseur des droits de l'homme aussi.
Ben peut-être qu'il faudrait justement
en Syrie, on le voit, c'est quand même le discours. Alors là, il y a une sorte de
mais
contradiction.
De toute façon, il y a un hiatus. Mais dans ces cas-là, il faut qu'on revoie la façon péremptoire dont parfois la France intervient ici. Là, je rappelle qu'on a totalement oublié la Palestine. Je rappelle qu'il faut aussi considérer qu'un certain nombre de pays ont changé de position à l'égard de Daesh. Il y a nouveau cette coalition qui est menée par l'Arabie Saoudite, dont on va voir ce que ça va donner. Je sais que Pierre connaît ça, n'a jamais la dent assez dure contre cette région, mais il n'empêche qu'ils ont montré des signes de bonne volonté.
Donc, ce que vous dites, c'est que, en gros, on ne peut pas revoir la position de la France à l'égard de l'Arabie Saoudite en matière économique, en matière de droits de l'homme, mais par contre qu'on pourrait l'avoir sur d'autres sujets.
Mais je pense que c'est un ensemble et que la diplomatie, ça consiste à parler à des gens qui ne nous ressemblent pas. Si nous travaillons seulement avec les pays qui nous ressemblent, on va quand même réduire sensiblement le nombre de nos interlocuteurs.
Alors, Pierre connaît ça. Pendant des années, vous l'avez redit en début d'émission, on a accusé Riyad d'avoir fait un peu le terreau du terrorisme, terreau idéologique avec des prêcheurs wahhabites, terreau financier aussi avec des princes peu regardants sur la destination de certains fonds. Aujourd'hui, le royaume est lui-même la cible du terrorisme. Le chef d'Al-Qaïda a d'ailleurs rappelé ce matin qu'il appelait à mener des attaques en Arabie Saoudite pour venger la mort de certains de ces djihadistes qui ont récemment été exécutés dans le royaume. Est-ce qu'il ne faut pas voir là quand même une rupture dans la politique de l'Arabie Saoudite ?
Non, moi je pense exactement le contraire. C'est-à-dire, je pense que si vous voulez, aujourd'hui Daesh a atteint trois des objectifs stratégiques principaux, et il est le quatrième. Vous essayez de vous expliquer quelle est la suite. Aujourd'hui, Daesh apparaît comme le véritable défenseur des sunnites opprimés par les chiites de Bagdad et de Amman. Riyad est devenu aujourd'hui l'ennemi public numéro un des Occidentaux. Et pratiquement aujourd'hui, Daesh a réussi à marginaliser Al-Qaïda. Bon. Le quatrième objectif, en se proclamant calife, c'est de contester la légitimité religieuse des Saouds. Les Saouds n'ont qu'une seule solution et qu'une seule politique, c'est de montrer qu'ils sont plus anti-chiites que ne l'est Daesh. C'est la raison pour laquelle ils font une guerre au Yémen. Et c'est la raison pour laquelle ils font une tension contre Téhéran. Et donc on n'est pas du tout dans un réajustement de la politique saoudienne, on est au contraire dans une aggravation de la politique saoudienne.
Dans un durcissement de sa ligne.
Durcissement anti-chiite, qui est une caractéristique du wahhabisme depuis sa naissance. Hein. Les wahhabites avaient déjà commencé à massacrer des chiites. Dès leur apparition, ils ont fait des expéditions punitives sur l'Irak à l'époque, etc. Donc c'est une espèce de ligne continue qui se retrouve dans le salafisme. Et donc on est face à une situation de guerre religieuse au Moyen-Orient dans laquelle j'estime que la France doit faire très attention aujourd'hui, en particulier à l'égard de l'Arabie Saoudite.
Alors Nathalie Goulet, là-dessus, je crois que vous n'êtes pas exactement d'accord. Hein. Vous ne considérez pas qu'il y a un durcissement de la ligne saoudienne aujourd'hui?
La ligne saoudienne n'a jamais été très souple. Elle a toujours été plutôt dure. Mais si vous voulez, le fait d'être une cible, ça altère quand même votre bonne humeur. Ça peut quand même, il y a eu quand même un certain nombre d'attentats en Arabie Saoudite, vous l'avez rappelé. Je veux dire, à partir du moment où on devient une cible, on est un peu plus sensible que si vous ne l'êtes pas, vous comprenez, c'est quand même une chose qui peut se comprendre. Donc, en plus, il y a la pression des voisins, parce que les autres pays du Golfe qui tiennent quand même aussi non seulement à leur réputation, mais aussi à leur sécurité, ont quand même aussi besoin d'une union. Et le fait que l'Arabie Saoudite ait pris en tous les cas des positions de cette coalition de 34 pays, dont on verra ce qu'elle va donner, un certain nombre de mesures, par exemple pour contrôler les financements qui ont été prises récemment par Riyad, je pense que c'était aussi une mesure attendue par ses voisins. Vous comprenez bien, les Émirats n'ont pas exactement la même ligne, le Qatar n'a pas exactement la même ligne, le Conseil de coopération n'a pas exactement la même ligne, mais pourtant tout le monde s'est aligné pour défendre l'Arabie Saoudite, mais surtout avant le Conseil de coopération de décembre, d'attendre que l'Arabie saoudite fasse des propositions et des propositions sérieuses de lutte contre Daesh. Donc,
Oui. Avant d'en venir peut-être à effectivement ce duel hein, Iran-Irak qui a aussi Iran-Arabie Saoudite, Pierre Conessa, je vous vois avoir envie de réagir. Est-ce que c'est sur cette coalition islamique que vous souhaitez réagir ?
Oui, bien sûr. 34 États, aucun État chiite. L'Algérie non plus d'ailleurs, parce que l'Algérie a une dent contre l'Arabie Saoudite hein, pour avoir financé le FIS en d'autres temps et d'avoir une attitude extrêmement complaisante à l'égard des GIA et du GSPC qui est exactement sur la même ligne que Daesh aujourd'hui. Donc ce n'est pas une coalition antiterroriste ou alors ça signifie qu'il ne peut y avoir de terrorisme que chiite. Bon. Deuxième chose, je veux bien qu'on me raconte que l'Arabie Saoudite lutte contre Daesh, mais quand on regarde le déploiement militaire que mène l'Arabie Saoudite contre Daesh, c'est-à-dire une quinzaine d'avions autant que le Hollande et le Danemark additionnés pour en mettre une centaine contre le Yémen, c'est que je pense que ces objectifs militaires ne sont pas ceux qu'ils affichent. Donc, on est bien dans une situation où l'Arabie Saoudite veut apparaître à nouveau comme le meilleur défenseur des sunnites. J'ai un dernier point qui est mal connu, la question des réfugiés. L'Arabie Saoudite, comme d'ailleurs les États du Golfe, n'ont jamais signé les grandes conventions sur les réfugiés. Pour une raison assez simple, c'est quand vous signez la convention, vous êtes obligé d'accepter tous les réfugiés. Les Saoudiens, comme les autres pays du Golfe, n'ont accepté que des réfugiés syriens et irakiens sunnites.
Donc là encore,
de choisir.
Rappelons qu'il y a 15% de chiites quand même en Arabie Saoudite aussi.
Oui, vous avez remarqué que leur principal leader, le pauvre, a été décollé.
Alors je voudrais, il nous reste déjà plus que quelques minutes, aborder quand même ces tensions là cette résurgence, des tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Nathalie Goulet, est-ce que la France doit choisir?
Mais l'Arabie Saoudite nous met un peu devant le choix de Sophie, là. Il y a un durcissement. Si vous voulez, c'est difficile pour l'Arabie Saoudite de voir l'Iran revenir dans le concert des nations. Lors des négociations de Genève, Laurent Fabius, qui a été le plus dur à l'égard de l'Iran, prenait manifestement la défense à la fois de l'Arabie Saoudite et d'Israël dans cette négociation.
Et il a été durement attaqué à Téhéran pour ses positions, d'ailleurs.
Oui, mais là, son voyage s'est très bien passé ensuite. Donc voilà, et le président Rouhani doit venir. Donc la réponse à votre question se posera, va se régler d'elle-même dans quelques jours, parce que le président Rouhani doit venir en France.
Alors justement, Pierre Conessa, cette visite du président Rouhani qui a été repoussée hein, puisqu'elle était prévue au moment des attentats. Donc c'est dans quelques jours. Est-ce qu'il faut s'attendre là à un nouveau rééquilibrage de la France dans sa politique à l'égard du Golfe? Plus pro-iranienne que pro-saoudienne?
Mais je crois qu'il ne faut pas qualifier la politique en pro. Il faut que la France soit sur une ligne de neutralité dans quelque chose qui véritablement risque de devenir, qui est un conflit aujourd'hui régional et qu'il ne faut surtout pas mondialiser. Parce qu'aujourd'hui, l'intervention des Occidentaux en Syrie, la coalition dans laquelle je vous rappelle qu'il y a quand même 17 pays dont 16 de l'OTAN, est quand même quelque chose comme un facteur externe dans quelque chose qui, encore une fois, concerne les pays de la région. Si on prend position pour l'un ou l'autre des deux pays importants de la région, c'est-à-dire l'Iran et l'Arabie Saoudite, on va se trouver, comme avec la guerre Iran-Irak, belligérant, ce que je ne souhaite pas étant donné le risque d'attentats terroristes sur le territoire.
Moi, je pense que la France a une position exceptionnelle et particulière où elle pourrait être un médiateur entre les deux rives du Golfe. Parce que nos très bons rapports avec l'Arabie Saoudite et nos rapports nouveaux, mais néanmoins, le président Larcher est allé en Iran il n'y a pas très longtemps. Laurent Fabius y est allé. Cette nouvelle relation avec l'Iran et l'excellente relation qu'on a avec l'Arabie Saoudite ferait de la France un médiateur absolument idéal dans cette crise diplomatique et stratégique dans une région qui est particulièrement importante et qui est quand même une poudrière. Donc je pense qu'au contraire, la France pourrait justement avoir une place très particulière dans cette médiation. Et être médiateur, plus exactement.
En quelques secondes, sur cette position de médiateur, Pierre Conessa, vous y
non,
croyez?
Non, je pense que simplement, il faut changer de ministre des Affaires étrangères, c'est tout. Effectivement, les Iraniens sont des gens polis, donc ils accueillent tous les visiteurs officiels avec la plus grande courtoisie. Mais je pense que j'ai à peu près une idée de ce qu'ils doivent penser de Fabius. Donc je pense que pour mener cette médiation, il faut changer de ministre des Affaires étrangères.
Ben, on restera sur cette opinion que vous venez d'émettre. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Retrouvez dans quelques minutes sur notre site RFI.fr. Merci donc à Nathalie Goulet, sénateur de l'Orne, présidente de l'association des Amis du Golfe, si j'ai bien noté, Pierre Conessa,
d'amitié.
Pierre Conessa, qui est donc l'auteur du guide du petit djihadiste qui vient de paraître chez Fayard, qui est spécialiste des questions stratégiques et militaires. Merci à Florence Ponce et Valentin Vaner. Demain, vous avez rendez-vous avec François Bernard pour un nouveau débat.